Bien, bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de notre séminaire « Les effets de la modernité », séance qui est intitulée, comme vous le savez, « Occident médiéval et modernité, retour sur l'historiographie de l'État moderne ». Je voudrais remercier très sincèrement l'assistance et les participants qui auront la lourde tâche de lire le dossier qui nous est présenté, celui de Jean-Philippe Genet. Les participants vont vous être présentés tout à l'heure, mais je souhaite d'ores et déjà donc la bienvenue à Katia Béguin, à Michel Napels, à Bruno Carsanti. La lourde tâche, oui, ai-je dit, de proposer une lecture d'une œuvre, celle de Jean-Philippe Genet, ici présent, que je remercie aussi de sa présence, une œuvre collective construite depuis une trentaine d'années et qui a quand même, on peut dire, une certaine ampleur, puisque Genèse de l'État moderne, dans sa première version, ce genre de livre, il y en a une trentaine d'exemplaires, on peut dire, et puis dans sa deuxième espèce, la Fondation européenne de la science en avait proposé 6 ou 7 exemplaires de cette 8, excuse-moi, et les publications de la Sorbonne avec l'École française de Rome sont en train de publier les 14 volumes, certains en 2 tomes, mais tous ne faisant pas plus de 1000 pages, enfin beaucoup quand même faisant plus de 1000 pages, du pouvoir symbolique en Occident. Lecture, ai-je dit, et je me permets, pour donner un sens à ce geste, je me permets d'emblée de citer une phrase de l'introduction du livre de Bruno Carsanti, « D'une philosophie à l'autre, les sciences sociales et la politique des modernes », paru chez Gallimard en 2013. « Lire, c'est penser avec d'autres dans leurs textes, pour autant que leurs textes ne se referment pas sur eux-mêmes, mais conduisent le lecteur à basculer dans un autre champ de réflexion, c'est-à-dire à poursuivre son questionnement dans un autre texte. Et c'est à ce type d'expérience, basculée d'un texte à l'autre, que nous vous proposons donc de travailler ensemble. Je suis heureux de réaliser ici et maintenant un des souhaits qui a été longtemps différé de Jean-Philippe Genet, confronté son travail à la lecture des sciences sociales aujourd'hui. J'en suis heureux et fier et ému parce que j'ai travaillé à ses côtés de très longues années et participé d'une certaine manière aux dernières inflexions de ce grand chantier de recherche. Il sait ce que la réflexion que nous tentons de mener ici sur l'histoire des pouvoirs lui doit. J'ai eu la maintes fois l'occasion de le dire. Disons que cet historien médiéviste, animateur au début des années 1980 de la Société d'études du féodalisme, a vite compris que la féodalité n'avait pas d'avenir dans notre monde contemporain, ce qui est tout de même une idée très minoritaire dans le monde académique et universitaire. Et on peut savoir gré à Jean-Philippe Genet d'avoir mis sa pratique de l'histoire en conformité avec la théorie de l'histoire qu'il pratiquait, c'est-à-dire au fond une théorie d'un pouvoir non autoritaire. Je voudrais aussi dire à Étienne Anheim, qui a coordonné la séance et qui va la présenter tout à l'heure, qu'il sait bien que les raisons sont nombreuses pour lesquelles je suis heureux de le convier à prendre la parole ici. Mais avant cela, je me contenterai juste ici de faire ce que je ferai donc à partir de maintenant et pour enchaîner les séances, un bref résumé du chapitre précédent pour essayer de comprendre comment notre réflexion collective s'articule. Nous avons donc lors de la précédente séance, et j'en profite pour dire ce que j'ai déjà dit la fois dernière, c'est-à-dire que les séances sont effectivement captées en vidéo, qu'elles seront disponibles en podcast, mais seulement pour les communications des intervenants, que la discussion libre, qui dure ensuite une bonne heure et qui clôt notre longue après-midi, elle, eh bien, puisqu'elle est libre précisément, elle est aussi libre de ne pas être remémorée. Et donc, vous pouvez vous exprimer avec en toute légèreté que vous souhaitez. Nous avons, lors de la précédente séance, donc envisagé la modernité dans son acception philosophique, c'est-à-dire, si je prends à rebours l'ordre de la séance, à partir de cette notion de progrès dont Michael Fossel a montré qu'elle n'était pas chez Kant, contrairement à ce que l'on dit souvent, une sécularisation de l'eschatologie. Et c'est évidemment une des questions qui va être saillante dans la réflexion sur la genèse de l'État moderne, le problème de la sécularisation assurément décisif chez les historiens, et je me permets de signaler sur ce point que, évidemment, on ne cesse, Bruno Carsanti l'a fait à la suite de Giorgio Agamben, de revenir sur la controverse entre Carl Schmitt et Erik Peterson. Vous souvenez, Carl Schmitt en 1922 dans Théologie politique affirmant abruptement tous les concepts prégnants de la doctrine moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés, et Erik Peterson lui répondant en 1935 dans Le monothéisme, un problème politique, que ceci n'était pas autre chose que des concepts politiques romains théologisés. Et d'une certaine manière, cette articulation, c'est un des points cruciaux de la théorie, me semble-t-il, de Jean-Philippe Genet, développé notamment dans un des colloques importants du programme dont il sera question ici, « Rome et l'État moderne européen », paru à l'École française de Rome en 2007. Retenons en tout cas que cette critique du modèle de la sécularisation amenait Michael Fossel, il y a 3 semaines, à envisager l'idée de progrès comme une catégorie de la consolation. Mais de quelle désolation le progrès devrait-il nous consoler ? De celle, disait-il, qui résulte du désenchantement de la modernité elle-même, et, je le cite, « le progrès à l'infini est consolant dans la mesure où il rend l'histoire supportable, alors même, ce qui est le propre de la modernité, que sa fin n'est plus certaine, mais seulement régulatrice. Il n'y a pas de conséquence nécessaire entre cette idée de progrès et la croyance religieuse en une théologie absolue, précisément parce que l'expérience historique est celle de l'écart maintenu entre l'espace d'expérience et l'horizon d'attente. » On reconnaît évidemment ici les catégories de Koselleck dont il sera question dans d'autres séances, mais c'était plutôt en suivant la critique de Hans Blumenberg que l'on parvenait à cette proposition, et notamment lorsqu'on se souvient de ce qui est démontré dans « La légitimité des temps modernes », seule l'époque moderne s'est comprise comme époque et a créé par là même les autres époques. Dès lors, cette puissance légitimante de la modernité trouble paradoxalement les moyens narratifs de la raconter. Et Stéphane Van Damme avait montré comment l'histoire des sciences, ce grand récit de la raison, affecte à la modernité une double valeur, normative et descriptive. Elle sert à la fois d'outil de périodisation et de valorisation. Dès lors, ramener la révolution scientifique à sa structure narrative est une manière de démoderniser son histoire, mais il y en a d'autres, et Stéphane Van Damme avait opposé récit et contre-récit, exposant plusieurs solutions narratives pour décrire les seuils et les mises en récit de cet ancien régime des sciences. Mais je remarque que dans tous les cas, c'est sur la question de la généalogie que butait l'analyse. Par exemple, lorsqu'il s'agissait de montrer que le nouveau modèle spatialisant des science studies, orienté vers l'avènement de l'anthropocène, remplaçait la généalogie de la modernité par la généalogie de la globalisation. Et donc on pourrait s'interroger sur cette critique systématique de la téléologie comme péché mortel de l'historien, comme le disait Lucien Febvre de l'anachronisme. Au fond, plus qu'une critique, c'est devenu d'ailleurs une sorte d'interdit proclamé et très peu théorisé, et qui peut-être empêche une des opérations historiographiques les plus courantes de notre métier, qui est quand même, d'une certaine manière, de mettre en continuité une chaîne de causalité. Et ce qu'il y a de plus désarmant, d'ailleurs, dans le programme Genèse de l'État moderne, c'est qu'il assume pleinement cette dimension, disons, évolutionniste. Et que c'est un des invariants, d'ailleurs, d'une pensée, celle de Jean-Philippe Genet, qui a par ailleurs évolué. Dans l'article des actes de la recherche en sciences sociales, paru en 1997, qui faisait le bilan de la première étape du programme, Jean-Philippe Genet écartait la modernité de l'État moderne, de la modernisation bureaucratique weberienne, en lui donnant une définition stricte, basée sur le consentement des populations, admettant à l'heure, c'était d'ailleurs une des questions qui avait été posée par un des intervenants la fois dernière, que, eh bien, on pouvait imaginer que l'État de Charles V était plus moderne que celui de Louis XI, ou même de Louis XIV, d'ailleurs, puisque l'ensemble de cet programme est une sorte de critique de la téléologie absolutiste. Mais c'est évidemment pour Ah bah tiens, j'ai oublié la troisième page. C'est curieux. Écoutez, je vais le lire sur mon iPhone. Cette question de généalogie, elle posait le problème qui a été ensuite celui de Mathieu Pot-Bonneville et qui nous ramenait à la question foucauldienne. Si vous me laissez une seconde, mais je pense que vous me laissez une seconde, je vais essayer de retrouver ça. Voilà, donc cette question de la portée évolutionniste, en fait, de la genèse de l'État moderne, elle se trouvait ainsi exprimée en 97, et dans la dernière production de Jean-Philippe Genet, « Pouvoir symbolique, légitimation et genèse de l'État moderne », dans le dernier volume « Légitimation implicite », on lit par exemple ceci. « Dans la perspective comparative et diachronique, l'apparition et le développement de l'État dans l'Occident médiéval, l'État est qualifié de moderne parce qu'il est l'ancêtre direct de celui d'aujourd'hui, où on le retrouve dans le monde entier, loin de sa racine européenne. » Voilà pourquoi il nous a paru essentiel de mettre l'ensemble de la dernière séance, non pas sous l'autorité, mais sous le questionnement de la généalogie foucauldienne. Et celle-ci ne vaut pas vraiment, au fond, pour sa puissance de périodisation, puisque Michel Foucault, c'est ce que nous a montré au début Mathieu Pot-Bonneville, utilise au fond, et sans trop y croire, et sans trop s'en préoccuper, de nouvelles idées qu'il place dans de vieux tiroirs, et que, au fond, lorsqu'il utilise âge classique, Renaissance, modernité, eh bien, c'est au fond comme une sorte de mise en récit qui entend à la fois la modernité comme, je cite Mathieu Pot-Bonneville, séquence, récence, exigence et reconnaissance. Donc, au fond, si Foucault nous aide à défaire les temps modernes, on ne peut pas attendre de lui non plus qu'il mène l'opération jusqu'au bout. Il s'agit, contre toute lecture théologique du moderne, de souligner que ce qui est récent est profondément contingent, autrement dit, ni originaire, ni reconnaissable. Mais ce qu'il cherche aussi, Foucault, du même mouvement, c'est à relancer l'exigence moderne. Et de ce point de vue, tout ce qui a été dit à la suite de Roger Chartier, dont je salue la présence ici, sur la manière dont Foucault, d'une certaine ne cesse de convoquer dans son œuvre la Révolution française, mais sans jamais lui assigner le rôle d'un tournant global et total de l'histoire, eh bien, va assurément dans ce sens. On se remarquera d'ailleurs que, d'une certaine manière, la question de l'Ancien Régime est peut-être aussi un autre impensé de notre conception historiographique du temps politique, et l'État moderne dont nous allons parler aujourd'hui est glissant sur toute la période moderne. C'est-à-dire que au début, il s'arrêtait au fond avec le long Moyen-Âge de Le Goff, c'est-à-dire à l'extrême fin du XVIIIe siècle, précisément parce qu'on était au temps justement de ce socle marxiste qui est la seule manière, si on croit à l'existence du mode de production féodal, de mener un Moyen-Âge étiré jusqu'au bout. Et sinon, eh ben, on a une butée qui n'est pas vraiment fixée et qui, pour l'instant, est plutôt, mais ça, on aura à en discuter, autour de 1640. Et voilà pourquoi nous revenons à notre point de départ kantien, sur lequel je terminerai, la lecture de « Qu'est-ce que les Lumières ?» par Michel Foucault, qui consiste à repérer le moment où Kant ne cherche pas, je cite Foucault, à comprendre le présent à partir d'une totalité ou d'un achèvement futur. Il cherche une différence. Quelle différence aujourd'hui fait-il par rapport à hier ? Et Mathieu Pot-Bonneville de commenter « L'archéologie entendue comme exercice de découpe et de démultiplication des découpes, exercice vis-à-vis duquel la modernité apparaît à la fois comme une unité provisoire et comme un cas possible, serait la traduction et la prise en compte dans la pensée contemporaine d'une attitude de modernité consistant précisément à assigner le présent par différence et comme différence, quand bien même la modernité est alors explicitement distinguée d'une époque. » Et nous voilà donc revenus à l'une des questions posées par Bruno Carsanti. Qu'est-ce qu'appartenir à la modernité, sinon érigée en condition moderne, la différence d'aujourd'hui par rapport à hier. Et nous nous retrouvons aussi sur le sens du mot de lecture qui, pour Michel Foucault, je le cite, déploie ses possibilités et la maîtrise de ces possibilités à partir des discours qui viennent de cesser justement d'être les nôtres. Donc c'est à ces lectures, dans ce sens-là, que nous vous convions cet après-midi.